Père de l'Annonciation, pourquoi? Bon, tout d'abord, l'instruction du soir, on essaie de faire en sorte qu'elle soit un peu moins spéculative, si on peut dire, plus concrète, en partie au moins, pour vous aider à faire en sorte que vous reteniez quelque chose de cette instruction du soir, parce que c'est la quatrième de la journée. Et puis, si j'ai choisi le thème de l'Annonciation, c'est parce qu'on vous invite à dire le chapelet tous les jours. La plupart d'entre vous le font, je le sais. Et plusieurs nous disent aussi que vous avez du mal, enfin, non, il est difficile tout au long de l'année d'avoir de bonnes pensées sur chacune des dizaines. Et donc, le but aussi, c'est un but pratique, de vous aider à mieux connaître ce mystère de l'Annonciation pour essayer de mieux égrener votre chapelet. Et d'avoir donc des pensées qui puissent vous aider dans votre vie de tous les jours. Donc c'est pour cela que j'ai pensé de vous parler du mystère de l'Annonciation. Et puis aussi, je trouvais que ça allait bien ensuite avec notre Seigneur, parce que comme on va le voir dans ce mystère, comme dans les autres mystères du rosaire d'ailleurs, la Sainte Vierge est concernée par les 15 mystères du rosaire, mais notre Seigneur aussi. Et donc on va essayer de voir là la place de notre Seigneur dans ce mystère. Et on peut dire que si notre Seigneur doit être notre modèle, eh bien, le bon Dieu a permis qu'entre notre Seigneur et nous, il y ait un autre modèle. Et cet autre modèle, c'est la Sainte Vierge. Alors, vous aurez une instruction sur la Sainte Vierge qui sera donnée plutôt en fin de retraite. Mais déjà, dans ce mystère de l'Annonciation, comme dans les autres mystères du rosaire, il importe de voir comment la Sainte Vierge peut être et doit être notre modèle. Et s'il est vrai que la Sainte Vierge est un modèle pour tout fidèle, pour tout catholique, il est spécialement un modèle pour toute femme chrétienne. Donc la Sainte Vierge est vraiment le modèle à imiter. Alors on va essayer de voir de quelle manière la Sainte Vierge a prononcé son « oui » le jour de l'Annonciation, comment ce « oui » de l'Annonciation est un écho, en fait, du « oui » que notre Seigneur lui-même a prononcé. Si notre Seigneur n'avait pas dit « oui » pour venir en ce monde, eh bien, la Sainte Vierge ne l'aurait pas mis au monde. Donc on va voir comment le oui de la Sainte Vierge est l'écho du oui de notre Seigneur. Et puis ensuite, on pourrait voir comment ce oui est en fait une image, le plus parfait modèle du oui que l'on doit prononcer un jour au moins dans sa vie. Que ce soit le oui de la profession religieuse, le oui du mariage, ou pour les prêtres par exemple, le oui du sacerdoce, le oui à la vocation. Donc ce grand mystère de l'Annonciation est important à considérer en début de retraite parce qu'il montre un peu ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a créés avec une intention particulière, donc il a un dessein sur nous. Et il importe que nous cherchions à correspondre à ce dessein et que nous puissions donc correspondre parfaitement à ce dessein. Et le oui de la Sainte Vierge nous montre ce que Dieu, enfin de quelle manière nous devons répondre à l'attente de Dieu lorsque au moins on a la lumière suffisante, comme ce fut le cas pour la Sainte Vierge. Donc c'est dans cette perspective que je voudrais faire cette petite allocution ce soir. Et puis en même temps aussi, pour celles parmi vous, bon, vous êtes de tranche d'âge assez large, on peut dire, pas entre 18 et 78, mais... Presque, peut-être même plus large, je pense. Ouais. Alors, certaines d'entre vous ont prononcé leur oui il y a déjà 50 ans. Et donc, il importera de rafraîchir ce oui. C'est aussi le but pour elles, ce sera le but de cette instruction. Donc, certaines ne l'ont pas encore prononcé, d'autres l'ont déjà prononcé. Donc, essayez en tout cas de voir comment, dans toute vie, en général, au moins, il y a un moment fort où le bon Dieu demande tout de nous. Et ce moment, pour la Sainte Vierge, c'était le jour de l'Annonciation. Donc tout d'abord, en introduction, donc, ce que l'on peut voir dans l'Évangile. « Quand la plénitude des temps furent accomplis », nous dit Saint Luc, qui rapporte cet épisode, « l'archange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de la Sainte Vierge dans le petit village de Nazareth, en Galilée. » Alors il va commencer par saluer, l'archange Gabriel commence par saluer la Sainte Vierge au moment où il rentre dans la pièce où elle se trouve, et il la salue avec des marques d'une telle vénération que la Sainte Vierge en est troublée. Donc le passage, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » C'est donc là le premier « Je vous salue Marie » qui a été prononcé ce jour-là. Et remarquez ici déjà une première chose, c'est que la Sainte Vierge n'est pas troublée par la visite de l'ange, elle est troublée de ses paroles. Je pense que si nous, on voyait un petit ange qui apparaissait au milieu de la retraite, certainement qu'on serait peut-être troublé par cette visite. Mais la Sainte Vierge était tellement remplie de Dieu, tellement remplie du divin, que cette présence de l'ange ne l'a pas troublée outre mesure. Par contre, l'éloge qu'on fait d'elle la trouble. Et ce trouble qui émane des paroles de l'ange montre cette humilité, la Sainte Vierge. Peut-être que nous, on aurait dit « Ah, enfin, quelqu'un qui me reconnaît !» Mais ce n'est pas l'attitude vraiment de Notre-Dame. Donc c'est intéressant de voir, en lisant l'Évangile en profondeur, que par certaines expressions, on voit en même temps l'attitude d'âme de Notre-Dame. Alors en ce moment-là, l'ange va la rassurer en lui disant « Ne craignez pas Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David son père et il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Donc ici, l'ange développe les qualités de l'enfant que la Sainte Vierge devra mettre au monde, en disant notamment qu'il sera le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut, c'est le Fils de Dieu. Donc la Sainte Vierge comprend par là qu'on lui demande de devenir la mère de Dieu. Alors c'est vrai que la Sainte Vierge, depuis toute petite, elle a prié au temple, elle a été élevée au temple, et donc elle a désiré, elle a attendu, elle a prié, elle a supplié même le bon Dieu de faire venir le Messie. Tous les Juifs, à cette époque, aspiraient, ceux qui étaient pieux, ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient restés fidèles, ils aspiraient après la venue du Messie. Et donc la Sainte Vierge, plus que quiconque, a attendu le Messie. Et elle a attendu d'ailleurs avec une prière si ardente que les auteurs spirituels aiment à dire que la Sainte Vierge a conçu l'enfant Jésus spirituellement avant de le concevoir physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ardeur de sa prière, la profondeur de sa prière qui a attiré Dieu en elle. Donc la Sainte Vierge n'a qu'un désir, c'est de voir le Messie venir sur la terre. Mais si au moment où elle entend ces paroles de l'ange, elle est troublée et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, eh bien c'est en raison du vœu de virginité qu'elle a fait au bon Dieu depuis déjà longtemps. Donc elle ne voit pas comment concilier la maternité qu'on lui propose avec le vœu de virginité qu'elle a fait à Dieu. Donc la Sainte Vierge ici n'hésite pas à se dire « Est-ce que je vais accomplir aujourd'hui la volonté de Dieu ou pas ?» Non, la Sainte Vierge veut accomplir la volonté de Dieu. Mais seulement, elle ne sait pas en quoi consiste cette volonté. Alors, pour sortir du doute, eh bien, elle va s'informer auprès de l'ange, comme le lui commande d'ailleurs, la prudence naturelle et surnaturelle. Donc, l'action de Dieu ne supprime pas la confiance en Dieu ne supprime pas l'action humaine, et donc la prudence humaine. Aussi, elle pose la question « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme ?» C'est-à-dire, comme je n'ai pas du tout l'intention de perdre ma virginité. Et la réponse en ce moment-là est immédiate. « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. » Donc l'ange, en ce moment-là, l'éclaire en lui disant que cet enfant ne sera pas le fruit d'un homme, mais sera conçu par l'opération du Saint-Esprit. Alors, apprenant en ce moment-là, justement, ayant cette réponse de l'ange, eh bien, immédiatement, la Sainte Vierge n'hésite pas un seul instant. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et là, ici, on doit admirer et approfondir un petit peu le sens de cette réponse de la Sainte Vierge. D'abord, la spontanéité avec laquelle la Sainte Vierge répond. Elle n'a pas dit « Attendez, revenez demain, je vais réfléchir, parce qu'aujourd'hui... Je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Non, eh bien, immédiatement, elle répond. Donc ça montre sa grandeur d'âme. Et donc, vous voyez, elle ne dit pas eh bien, que la volonté de Dieu se fasse, c'est ce que ça veut dire, mais elle commence par dire d'abord, je suis la servante du Seigneur. Et je suis la servante du Seigneur, c'est bien l'écho un peu de cette instruction, pour celles qui l'ont bien entendu à table, de mon Seigneur sur la vertu d'humilité. La Sainte Vierge est tellement humble, tellement petite à ses propres yeux, qu'au moment où l'ange la proclame la mère de Dieu, elle traduit la pensée de l'ange en disant qu'elle est la servante du Seigneur. Donc c'est le terme, je dirais, le plus faible par rapport à ce qu'elle est elle-même. Elle voile sa grandeur pour mettre en valeur, au contraire, sa petitesse. Donc je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, ça veut dire il est mon créateur, il est mon Dieu. C'est lui qui m'a créé, c'est pas moi qui me suis créé moi-même. Donc le bon Dieu sait mieux que moi pourquoi il m'a créé. Par conséquent, si le bon Dieu me fait savoir d'une façon claire ce qu'il attend de moi, eh bien qui suis-je moi pour m'opposer à ce plan de Dieu ? Donc l'attitude de la Sainte Vierge face à la volonté signifiée de Dieu, eh bien c'est je suis la servante du Seigneur. Donc là, il faut que nous comprenions nous-mêmes que Dieu a un dessein sur nous et que notre rôle, c'est d'essayer de correspondre à ce dessein de Dieu. Tout être est fait pour Dieu, que ce soit un être végétal, minéral, animal, tout être est fait pour Dieu. Seulement, il y a des êtres qui, eux, n'ont pas la liberté. Ils sont déterminés par la nature à produire ce qu'ils doivent produire. Le pommier produit ses pommes, le poirier ses poires, etc. Donc eux, ils sont déterminés par leur nature. Le soleil produit lumière et chaleur, l'abeille produit le miel, etc. Alors le bon Dieu a donné à certaines créatures la liberté. Mais cette liberté que le bon Dieu a donnée, elle a été donnée dans le but qu'on réponde oui à son plan d'amour. Donc la liberté ne nous est pas été donnée pour qu'on dise ben, « est-ce que je vais répondre oui, est-ce que je vais répondre non ?» Non, la liberté nous a été donnée pour qu'on corresponde au plan de Dieu. Et c'est ce que signifie la Sainte Vierge en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Puisque le bon Dieu veut que je devienne sa mère, eh bien, je me soumets à ce plan divin. Et après, donc, elle poursuit en disant « Qu'il me soit fait selon votre parole ». Donc, elle ne dit pas ici qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, mais qu'il soit fait selon votre parole. Ça veut dire que la Sainte Vierge, ici, se soumet non seulement à Dieu, mais aux intermédiaires qu'il y a entre Dieu et elle. En l'occurrence, ici, c'est un ange, mais ce ne sera pas toujours un ange qui viendra l'éclairer. Par exemple, dans le mystère de la Visitation, c'est mu par une inspiration de l'Esprit-Saint qu'elle ira chez sa cousine Élisabeth. Lorsque, peu de temps avant la naissance de notre Seigneur, il va y avoir le fameux édit qui va obliger la Sainte Vierge à se rendre à Bethléem, là encore, elle va se soumettre à cette loi humaine. Lorsqu'ensuite notre Seigneur sera né et qu'un ange viendra réveiller Saint Joseph pour lui dire « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte », eh bien, elle va obéir à Saint Joseph. Et d'ailleurs, ici, c'est très intéressant dans ce mystère de constater l'ordre toujours de la Providence. L'ange est allé réveiller Saint Joseph et lui a dit « donc prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ». Remarquez bien, et je vous le rappelle, essayez de bien vous en pénétrer, l'ange n'a pas réveillé la Sainte Vierge pour dire « prends l'enfant et son père et fuis en Égypte ». Ça, c'est comprendre un peu l'ordre qui doit exister dans les foyers. Enfin, c'est entre nous, hein. Donc on voit par là, quand on regarde les quelques traces que nous avons de la vie de la Sainte Vierge dans l'Évangile, que la Sainte Vierge, tout au long de sa vie, a cherché à se soumettre à la volonté de Dieu. Volonté manifestée soit par un ange, soit par un décret humain, soit par une inspiration de l'Esprit-Saint, ou soit par le chef de famille qui était Saint Joseph. Et toujours, il y avait cette même soumission. Et ici, il faut comprendre maintenant la beauté et la profondeur et l'héroïcité, on pourrait dire, de ce oui prononcé par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge était remplie de Dieu, elle connaissait bien les prophéties de l'Ancien Testament, et elle connaissait probablement donc le passage d'Isaïe qui annonçait que le Messie souffrirait. Donc le jour de l'Annonciation, elle savait qu'en mettant au monde le Messie, elle devrait un jour être la mère des douleurs au pied de la croix. Et elle a accepté malgré tout, donc sans réticence, sans réserve, de dire oui à Dieu. Et là, on voit par là sa grandeur d'âme. Et si on se demande comment la Sainte Vierge a-t-elle été capable de prononcer un oui d'une telle exigence et d'une façon si rapide, si prompte, eh bien cela vient de la générosité habituelle qu'elle avait. La Sainte Vierge a toujours dit oui à Dieu depuis sa plus tendre enfance. Notre Seigneur nous a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes ». Et au contraire, malheureusement, à l'inverse, donc, celui qui est infidèle dans les petites choses, eh bien, il risque fort le jour où le bon Dieu demandera davantage, comme il n'aura pas appris à se renoncer dans les petites choses, à dire non à Dieu. Donc si on veut un jour, peut-être, qui sait, dire oui à Dieu dans des choses plus grandes, il faut apprendre à dire oui dans les petites choses de la vie de tous les jours. Donc après avoir vu ce oui de la Sainte Vierge, ce fiat de la Sainte Vierge, le jour de l'Annonciation, il importe de ne pas oublier le oui de notre Seigneur. Donc tout dans la vie de la Sainte Vierge, on voit que la Sainte Vierge est une copie conforme et une image de son Fils, un miroir des vertus de son Fils, et c'est ce qui apparaît ici déjà dans ce oui premier. Le jour de l'Annonciation, la Sainte Vierge dit oui à Dieu, mais notre Seigneur aussi dit oui à Dieu son Père. Si notre Seigneur n'avait pas dit oui à Dieu son Père, eh bien il ne se serait pas incarné. Et pour montrer les dispositions maintenant de l'âme de notre Seigneur, le jour de l'Annonciation, il y a un passage dans le Nouveau Testament que vous trouvez au livre dans une épître de saint Paul aux Hébreux, au chapitre 10, ce sont les versets 5 à 7. Saint Paul, dans ce passage, décrit l'attitude d'âme de notre Seigneur en venant en ce monde. Et voici ce que dit saint Paul. Ô Père, il fait parler notre Seigneur, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici que je viens pour faire votre volonté. Donc notre Seigneur, voyant l'insuffisance des sacrifices de l'Ancien Testament pour racheter le monde, si les sacrifices de l'Ancien Testament ont eu une certaine valeur, c'est uniquement en tant qu'ils étaient des figures, des images du sacrifice de notre Seigneur. Mais tous ces sacrifices, sacrifices de l'agneau pascal, les différents sacrifices de l'Ancien Testament, ne tiraient leur valeur que par anticipation du sacrifice de notre Seigneur. Donc ces sacrifices sans celui de notre Seigneur n'auraient eu aucune valeur. Donc notre Seigneur, on peut dire du haut du ciel, voyant justement l'insuffisance de tous ces sacrifices, eh bien décide, dans un élan d'amour, de se donner, de se livrer lui-même en sacrifice pour nous racheter. Et ici, c'est très intéressant parce qu'on voit par là comment notre Seigneur, dès le premier instant de son incarnation, il apparaît comme prêtre et comme victime. Il vient sur la terre, c'est pour mourir pour nous, c'est pour nous racheter de nos péchés. Et de quelle manière, alors, va-t-il exercer ce rôle de victime ? Eh bien, en accomplissant la volonté de son Père. Juste après avoir dit, vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici que je viens pour accomplir votre volonté. Et quand vous lisez l'Évangile, notamment l'Évangile de saint Jean, on voit que notre Seigneur n'a eu qu'un seul souci, accomplir la volonté de son Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça revient sans cesse dans l'évangile de saint Jean. Donc on voit la préoccupation essentielle de notre Seigneur, faire la volonté de son Père. Et on voit que cette attitude de notre Seigneur, eh bien, c'est également l'attitude que l'on voit en Notre-Dame. La Sainte Vierge n'a eu qu'un seul souci, accomplir la volonté de Dieu. Alors la question qu'il faut nous poser maintenant, en deuxième partie, en deuxième volet de la contemplation de ce mystère de l'Annonciation, c'est comment acquérir nous-mêmes ce que je pourrais appeler l'attitude d'Annonciation. Donc on voit bien à travers ce mystère la disposition d'âme de la Sainte Vierge, celle de notre Seigneur, et la question maintenant qu'on se pose, comment reproduire en nous cette même approche de Dieu. Si la Sainte Vierge et notre Seigneur sont nos modèles, il faut savoir comment les imiter. Eh bien, la première chose qu'il faut, si l'on veut, à notre tour, avoir cette même attitude d'âme face à Dieu, c'est d'abord désirer accomplir la volonté de Dieu. Avoir toujours ce souci-là. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? C'est pas qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, qu'est-ce qui pourrait m'enchanter, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Donc, avoir ce souci de vouloir accomplir ce que Dieu veut. Et deuxièmement, on développera les deux points, deuxièmement, essayer d'acquérir une indifférence de volonté, non pas de sensibilité, mais de volonté, qui nous permette de dire oui à Dieu lorsque la volonté de Dieu est clairement manifestée. Donc acquérir une indifférence de volonté qui nous permette d'avancer dans la bonne direction lorsque Dieu parle. Si on n'a pas cette indifférence de volonté, quand Dieu nous parlera, on risque de faire la sourde oreille. Tandis que si on arrive à avoir cette indifférence de volonté, on aura une disposition d'âme telle qu'on sera prêt à dire oui à Dieu. Donc il faut essayer de modeler notre âme de telle sorte que l'on soit prêt à avancer dans la direction que le bon Dieu nous manifestera. Donc tout d'abord, désirer accomplir la volonté de Dieu. Et pour cela, se rappeler que Dieu est providence. Dieu est providence, ça veut dire que Dieu prévoit, il voit avant ce qui se passe, et ensuite il pourvoit, c'est-à-dire qu'il donne les moyens pour accomplir ensuite ce qu'il attend de nous. Alors le plan de Dieu nous est en partie connu, on sait qu'on doit suivre ses commandements, donc là il n'y a pas à se dire, ben, est-ce qu'aujourd'hui je vais suivre le troisième commandement de Dieu ? Ben non, les commandements, on doit les suivre, donc là il n'y a pas de question à se poser. Donc le plan de Dieu nous est en partie connu, c'est la soumission au commandement de Dieu et de l'Église. C'est encore la soumission aux inspirations de Dieu. Bon, après, il y a toute la question de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de notre esprit propre et ce qui peut venir du démon. Ça pourrait être l'objet d'une autre instruction. Et donc tout cela, c'est ce qu'on appelle la volonté signifiée de Dieu. Dieu nous a signifié sa volonté par ses commandements, par ses inspirations, et on pourrait aussi dire par l'esprit des conseils évangéliques. Donc les conseils évangéliques, c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, et puis l'obéissance. Bon, alors les religieux, eux, non seulement doivent avoir l'esprit des conseils, mais pratiquent les conseils par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, mais ceux qui sont dans le monde doivent chercher à se détacher des biens de ce monde, se détacher des biens sensibles, et se détacher de leur volonté propre en tant que qu'ils s'opposent à ce que Dieu attend de nous. Mais ça, bon, ça pourrait être l'objet d'un autre développement. Mais retenons en tout cas surtout qu'on doit être soumis au commandement de Dieu et puis aux inspirations de Dieu. Et alors à cette volonté signifiée de Dieu s'ajoute la volonté qu'on appelle de bon plaisir de Dieu. Dieu parle par les événements. Donc tous les événements qui nous touchent, qu'on n'a pas recherchés, qu'on n'a pas voulu de nous-mêmes, eh bien sont ou voulus ou permis de Dieu pour notre plus grand bien. Donc ça c'est toujours très consolant de nous le rappeler. Tout ce qui arrive, dit saint Paul, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tous les événements qui nous touchent et qu'on n'a pas recherchés sont ou voulus de Dieu ou permis par Dieu pour notre plus grand bien. Le fait de tomber malade, ce n'est pas nous qui désirons la maladie. Le fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse cette température, bon, etc. Tout cela, le fait d'avoir tel parent, le fait de vivre dans tel pays, à telle époque, dans telle société, tout cela, on ne l'a pas recherché. Eh bien, c'est la volonté du bon plaisir de Dieu. Et saint François de Sales précise, dans son traité de l'amour de Dieu, que l'union de notre volonté au bon plaisir de Dieu se fait principalement par les tribulations, parce que la croix est le don que Dieu réserve à ses amis. Donc l'union de notre volonté à ce bon plaisir divin se fait spécialement par les tribulations. Alors ça fait toujours mal à entendre, mais c'est comme ça. On n'est pas sur la terre pour jouir, on est sur la terre pour mériter. Donc nous, on voit qu'un côté de la... On voit que c'est quelques années qu'on passe sur la terre, on ne voit pas l'éternité qu'il y a de l'autre côté. Mais lorsqu'on sera passé dans l'éternité, on comprendra que c'est quelques moments de souffrance n'étaient rien en proportion de la gloire que le bon Dieu nous a réservée. Donc il faut essayer de changer de lunettes, de prendre les lunettes du bon Dieu et de regarder les choses sous le regard de l'éternité. Et certainement, quand on verra les choses sous le regard de l'éternité, on aura une autre appréciation. Par exemple, sur la terre, il y a certains moments, la vie peut paraître longue. Eh bien déjà, même avant d'être à l'éternité, en étant uniquement au seuil de l'éternité, on s'aperçoit que la vie est très courte. Ça, je l'ai remarqué dans mon ministère auprès des mourants. Les gens me disent « Ah, ben, ma vie, elle a été très longue, il est temps maintenant de me reposer. » Non, en général, c'est pas comme ça qu'on passe de l'autre côté. On se dit « Ma vie était très brève, est-ce que je pourrais jouer encore un peu les prolongations ?» On va essayer de... C'est comme ça. Donc, essayer de voir les choses avec l'œil de Dieu, sous le regard de l'éternité. Alors, cette volonté de bon plaisir de Dieu apparaît spécialement dans les épreuves. Et face aux épreuves, alors de la vie, que tout le monde connaît, plus ou moins, au moins, il y a des gens qui sont plus ou moins éprouvés, c'est vrai. Mais face aux épreuves de la vie, eh bien, il y a deux manières de dire oui à Dieu. On peut dire non, mais alors à ce moment-là, ce n'est plus une façon chrétienne de réagir. Mais si on réagit chrétiennement, il y a deux manières de dire oui à Dieu. La première manière, c'est la résignation. Par exemple, je suis gravement malade, je ne sais pas si ma maladie conduit à la mort ou non. Je suis résigné à accepter cette éventualité, si telle est la volonté de Dieu. Je préfère vivre, mais si Dieu veut me rappeler à lui dès maintenant, j'accepte. Donc je me résigne à me soumettre à la volonté de Dieu. Et la deuxième manière, qui est plus parfaite, c'est l'indifférence. Alors dans l'exemple que l'on vient de prendre, ça signifie, dans ma sensibilité sans doute que je préfère la vie, normalement tout homme aime la vie, donc je n'ai qu'un, mais dans ma volonté, je n'ai qu'un désir, accomplir ce que Dieu veut. Qu'importe que je vive ou que je meure, que la volonté de Dieu se fasse. Donc vous voyez bien qu'il y a ce degré supérieur. Et pour vous montrer un peu la différence entre les deux, je vais vous raconter simplement un petit fait pastoral qui date d'avant-hier. Je suis allé porter l'extrême onction à un monsieur de 77 ans, un notaire ici de la région. Et bon, comme je fais d'habitude, j'ai commencé d'abord par lui donner le confesser, lui donner la communion. Et puis après, bon, pour ne pas l'effrayer, je lui dis « Est-ce que vous accepteriez que je vous donne le sacrement des malades ?» Alors lui me regarde droit dans les yeux et puis il me dit « Quelle est la différence qu'il y a entre le sacrement des malades et l'extrême onction ?» Alors je lui dis « C'est la même chose. » Alors à ce moment-là, d'une voix tremblante, il me dit « Vous croyez que j'en suis vraiment à ce point-là ?» Alors à ce moment-là, je lui expliquais qu'il y avait... Bon, enfin, j'ai continué essayer de l'apaiser. Donc il a accepté le sacrement de l'extrême onction, il l'a reçu. Et puis à la fin, l'extrême onction, donc son épouse était présente, et il dit en ce moment-là « Ah, je suis content !» Et puis il regarde son épouse, et puis lui dit « Toi aussi, tu es contente ? Ben, j'aimerais bien que tu restes encore un petit peu avec moi !» Alors c'est amusant parce que la façon dont lui a réagi à la fin et la façon dont elle a réagi ont bien montré que dans un cas il y avait l'indifférence, dans l'autre cas c'était la résignation. C'était vraiment... c'est vraiment l'action du bon Dieu par le sacrement. Alors notons que cette indifférence est une indifférence de volonté et non de sensibilité. Donc naturellement on ne peut pas aimer la souffrance dans notre sensibilité. Face à la souffrance, le mouvement de l'homme sera toujours un mouvement de recul. Et notre Seigneur lui-même, eh bien, nous l'a montré au Jardin des Oliviers. Notre Seigneur a dit « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Mais il a ajouté ensuite « Non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Donc on voit là ces deux aspects, on peut dire, qu'on rencontre dans toute âme humaine. D'un côté, un mouvement de recul spontané, qui est irréfléchi, on pourrait dire. Et puis de l'autre, après, par la volonté, la soumission à la volonté de Dieu. Remarquons encore que cette indifférence ne nous conduit pas à abandonner les moyens humains pour recouvrer la santé. Dans la mesure où je suis gravement malade, j'ai le devoir de prendre les moyens ordinaires pour retrouver la santé. Donc l'abandon à la providence ne doit pas nous conduire, pour autant, à nous abstenir des moyens naturels que Dieu a mis à notre disposition pour nous soigner. Ça, c'est aussi toujours important. L'action de Dieu ne supprime pas l'action de l'homme. Et notons enfin que l'indifférence regarde la volonté de Dieu qui ne nous est pas encore connue. Lorsque la volonté de Dieu nous est manifestée, normalement, on ne doit plus être indifférent, mais s'attacher à cette volonté tout de suite. Et on peut dire que le fruit de cette disposition d'âme, si on arrive petit à petit à approcher de cette disposition d'âme, d'abandon ainsi à la volonté de Dieu, par non seulement la résignation, mais par l'étape supérieure de l'indifférence de volonté, eh bien on acquiert une plus grande maîtrise de nous-mêmes, c'est sûr, face à toutes les difficultés de la vie. Et on arrive à voir alors, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que tout est grâce. Et l'âme qui se rend compte que tout est grâce, eh bien, elle peut vivre dans l'action de grâce. Et c'est pour cela que l'effet du fiat de la Sainte Vierge, c'est son magnificat. Donc si nous sommes totalement fiat, totalement soumis à la volonté de Dieu, nous pourrons, nous aussi, en proportion de cette soumission, nous pourrons aussi chanter notre propre magnificat. Lorsque la Sainte Vierge a prononcé son fiat, c'était le jour de l'Annonciation. L'épisode qui suit, c'est immédiatement la visitation. Donc la Sainte Vierge se rend chez sa cousine Élisabeth. En ce moment-là, dès que sa cousine Élisabeth lui parle, la première réponse de la Sainte Vierge, c'est son magnificat. Donc on voit que c'est là le fruit de la disposition d'âme qu'elle a pu avoir au moment où elle a accueilli notre Seigneur en son sein. Alors comme moyen pratique concret que je pourrais vous donner pour essayer de vous maintenir constamment, et c'est vrai aussi pour moi, de nous maintenir constamment dans cette disposition d'âme, eh bien c'est la récitation de l'Angélus. Dans l'Angélus, au milieu de l'Angélus, on dit tous les jours, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Eh bien, essayons au moment où nous prononçons ces paroles, de l'actualiser, de faire en sorte que nous demandions au bon Dieu, « Qu'il me soit fait selon votre parole », c'est que ça veut dire « Qu'aujourd'hui, Seigneur, j'accomplisse votre volonté. » Et si on le fait 3 fois par jour, eh bien, petit à petit, ça finira par rentrer, j'espère. On arrivera petit à petit à nous soumettre toujours plus profondément à cette volonté de Dieu. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce mystère de l'Annonciation. Donc en contemplant ce mystère, voyez toujours comment la Sainte Vierge et notre Seigneur sont notre modèle. Essayons de pénétrer l'âme de notre Seigneur le jour où il est descendu dans le sein de Notre-Dame. Et puis également, essayons de pénétrer l'âme de la Sainte Vierge pour essayer de correspondre à cette attitude d'âme. Et disons-nous bien que ce modèle que l'on contemple, qui est très beau, il peut nous paraître difficile à imiter, mais il faut savoir que notre Seigneur est non seulement le but à atteindre, mais il est aussi le moyen. Donc c'est notre Seigneur qui est notre modèle, mais c'est lui aussi qui nous aidera lui-même à correspondre à ce modèle. Sinon, c'est décourageant. Plus on rencontre un modèle parfait, plus, quand on revient sur nous-mêmes, on se sent loin de ce modèle et on se dit, comment je pourrais y arriver ? Bien, n'oublions pas que notre Seigneur est justement le modèle, mais il est aussi le moyen pour arriver à cela. Donc, c'est le bon Dieu qui nous change, c'est notre Seigneur qui, petit à petit, par nos communions, par nos désirs, par une vie plus proche de lui, qu'on arrivera à l'imiter. Donc on va se rendre maintenant à la chapelle pour la prière des compliments. Se rappeler quel est le but d'une retraite. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Donc le premier but d'une retraite, s'il fallait le décrire, j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est de se reposer en Dieu. Donc, oui, on est là, vous êtes là pour vous reposer, en partie physiquement, c'est pour ça qu'on se lève à 7 heures, bon ça va, hein. C'est pas trop tôt, et puis pour vous reposer physiquement et surtout spirituellement. Donc vous êtes là pour reprendre des forces spirituelles. Donc si je parle de repos, le repos s'oppose au travail, donc ça signifie ici qu'il faut plutôt se laisser faire que d'agir. Le but d'une retraite, c'est de laisser le bon Dieu transformer votre cœur. Le bon Dieu a des choses à vous dire, et il faut le laisser travailler. Donc l'écueil ici à éviter, c'est le volontarisme, où on voudrait arriver uniquement par un travail personnel à une transformation profonde de notre âme. Le travail de l'âme, c'est le travail du bon Dieu, c'est le travail de la grâce. Donc il faut laisser le bon Dieu agir. Et c'est pour ça que je dis se reposer. Mais se reposer, ça ne signifie pas pour autant dormir. Il ne faut pas faire que dormir. Et là, l'erreur opposée serait l'erreur du quiétisme, où on se dit, oh, c'est le bon Dieu qui me change, moi ça va, je le laisse faire. Il ne faut pas oublier que l'action de Dieu ne supprime pas notre propre action. On doit collaborer à l'action de la grâce. Et donc c'est un savant équilibre qu'il faut avoir, et qu'on n'arrive pas toujours d'ailleurs à acquérir. On a parfois tendance soit à trop agir, ou soit à trop se reposer en laissant le bon Dieu agir. Et donc il faut essayer d'arriver à trouver cet équilibre, et la retraite est là pour cela. Donc vous êtes là pour vous reposer en Dieu, et donc vous essayez, enfin vous êtes dans une atmosphère telle que vous allez pouvoir vous disposer à entendre, j'espère au moins, la voix de Dieu. Ça ne signifie pas que vous avez une petite visite d'un ange ou de la Sainte Vierge, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais certainement que quand on se retrouve dans le silence, face à Dieu et face à soi, il y a des lumières que le bon Dieu donne. Et donc il faut être disponible pour capter ces lumières et capter ces informations que le bon Dieu pourra vous donner. Donc vous êtes là pour essayer d'entendre Dieu, et face à ce que Dieu peut avoir à vous dire, il faut savoir déjà qu'on a tous plus ou moins tendance à avoir une oreille sélective, parce qu'il y a des choses que le bon Dieu nous dit d'agréables, et là on dirait encore, et puis il y a d'autres choses que le bon Dieu a à nous dire qui nous plaît peut-être moins. Et là on pourrait avoir tendance à vouloir changer de chaîne. Donc il faut essayer de se dire, le bon Dieu a des choses à me dire, je dois essayer de me disposer à entendre cette voix de Dieu. Et dans ce qu'il aura à me dire, il y aura certainement des choses qui me plairont, mais il pourra aussi y avoir des choses qui pourront me travailler intérieurement. Donc c'est à moi d'essayer de tout recevoir de ce que le bon Dieu pourra me dire. Donc il faut toujours se dire que l'amour de Dieu est un amour qui est béatifiant, donc un amour qui a pour but de nous rendre bien heureux, Dieu nous a créés pour le bonheur, mais c'est aussi, au moins sur la terre, un amour crucifiant. L'amour de Dieu est exigeant. Quand on dit qu'on va prêcher sur la charité, donc sur l'amour, il ne faut pas croire que l'amour, ce soit uniquement... il y a un aspect de l'amour qui est douceur, qui est paix, qui est sérénité, mais il y a un autre aspect d'amour qui est très exigeant. Quand on voit la Sainte Vierge au pied de la croix, eh bien, on comprend que cet amour du bon Dieu est parfois très, très douloureux. Il a un aspect douloureux. Donc il faut essayer de se disposer à recevoir cette double facette de l'amour. C'est une facette qui est plus douce et une facette qui est plus exigeante. Parce que, en fait, l'amour exige la totalité d'une certaine manière. Un amour vrai, un amour profond exige tout. Et le bon Dieu, parce qu'il nous a créés par amour, il veut qu'on se donne totalement à lui. Et nous, en fait, on voudrait bien lui donner une partie, mais on voudrait bien aussi pouvoir au moins en conserver une autre. Et donc c'est là qu'il y a un partage. Et donc qui dit partage, dit combat. Et qui dit combat, dit aussi en partie sécheresse que l'on peut éprouver au cours d'une retraite. Donc si l'on veut entendre vraiment la voix de Dieu, il faut essayer d'avoir cette disponibilité, cet accueil à l'action de la grâce, cette ouverture d'âme. Et pour cela, il faudrait imiter cette parole de Samuel qui disait, lorsqu'il entendit Dieu lui parler au milieu de la nuit, « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. » C'est ce qu'il faut essayer de se dire au début de notre tête. « Mon Dieu, vous savez mieux que moi ce que vous avez à me dire. Eh bien, je suis disposé à vous entendre. » Au moins, avoir cette disposition d'âme, d'être prêt à entendre cette voix de Dieu. Et ensuite, à être prêt à agir en conformité avec ce que l'on aura entendu. Ou encore, faudrait imiter cette disposition qu'a eue Saul sur le chemin de Damas, où, bien sûr que là, c'était des circonstances un peu difficiles pour lui, parce qu'il se retrouvait les quatre fers en l'air. Et là, tout de suite, Seigneur, quand le Seigneur lui a paru, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Eh bien, c'est un petit peu cela aussi. Dans votre vie de tous les jours, plusieurs nous le disent, on ne sait pas toujours quelle décision prendre, la vie n'est pas facile, on a parfois des décisions graves. Eh bien, la retraite est là pour nous aider à prendre un peu du recul par rapport à notre situation, pour essayer ensuite de voir dans quel sens avancer. Donc on est là pour essayer d'entendre la voix de Dieu. Et entendre la voix de Dieu, ça ne signifie pas pour autant sentir Dieu. Donc il faut toujours se rappeler cela. La vie spirituelle ne repose pas avant tout sur des sentiments, sur des impressions, sur des sensations. La vie spirituelle repose sur les vérités que Dieu nous a révélées. Dieu nous a dit, il y a 2000 ans, qui il est, ce qu'il attend de nous, et quel chemin on doit prendre pour aller au ciel. Et Dieu agit aujourd'hui encore à travers ses prêtres, à travers la liturgie. Donc il ne s'agit pas uniquement de faire mémoire d'événements passés, il y a vraiment une action de la grâce présente, et il s'agit de capter cette grâce, mais cette grâce n'est pas essentiellement sensible. Et donc il y a des gens qui ont une vie spirituelle en dents de scie parce que justement ils sont beaucoup trop rattachés à ce qu'ils éprouvent dans leur sensibilité. Donc quand le bon Dieu leur donne du sucre, en ce moment-là tout va très bien, le bon Dieu enlève un peu de sucre pour voir si l'âme est vraiment attachée à lui ou non uniquement au sucre qu'il donne, et puis l'âme en ce moment-là est tout de suite perturbée, elle ne sait plus du tout dans quel sens avancer. Donc il est certain qu'au cours d'une retraite, il y a des moments où on se sent bien, ce qui est normal, mais il ne faut pas uniquement réduire notre union à Dieu à cette sensation que l'on peut éprouver à certains moments. Donc il y a un danger de gourmandise spirituelle qui existe, de la même manière qu'il y a un danger de gourmandise dans le domaine de l'alimentation corporelle, il y a aussi un danger de gourmandise spirituelle. Et donc il faut le savoir au début d'une retraite, donc vous n'êtes pas là ici avant tout pour alimenter votre gourmandise spirituelle. Donc entendre la voix de Dieu, ce n'est pas essentiellement et uniquement sentir Dieu. Bien que quand le bon Dieu nous donne des consolations, on est bien sûr prêt à les accepter, donc on peut très bien les accepter. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas non plus comprendre Dieu. Dieu agit d'une façon qui dépasse nos voix humaines. Combien de fois dans la Sainte Écriture, on retrouve ça tout le long de la Sainte Écriture, le bon Dieu dit « Mes voix ne sont pas vos voix, mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc, on est souvent dérouté dans la vie de tous les jours parce que, on s'attendrait à ce que le bon Dieu agisse vis-à-vis de nous d'une façon différente. Et donc, au cours d'une retraite, c'est la même chose. On est là pour essayer d'entendre la voix de Dieu, mais il ne s'agit pas de vouloir tout comprendre. Il y a des choses qui dépassent nos capacités humaines. Donc, si on arrivait à comprendre parfaitement Dieu, on serait Dieu, ou alors c'est Dieu qui ne serait plus Dieu. Donc on n'est pas ici non plus pour nourrir uniquement notre intelligence. Bien sûr que notre intelligence sera entretenue, sera nourrie en partie par les vérités de la foi. Mais il ne s'agit pas pour autant de nourrir une simple curiosité intellectuelle ou spirituelle. Donc il faut surtout, quand on écoute les instructions, se dire « qu'est-ce que Dieu veut me dire par là ? Quelles sont les conséquences que ça peut entraîner dans ma vie de tous les jours ?» pour essayer de mieux comprendre Dieu et mieux savoir ce qu'il attend de nous. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est essentiellement, en fait, développer en nous les vertus de foi, d'espérance et de charité. La vie chrétienne est essentiellement une vie théologale. Quand vous êtes ici pour passer 5 jours auprès du bon Dieu, le but, c'est d'apprendre à mieux le connaître et à mieux l'aimer. Comment connaître Dieu ? Par la foi. Comment aimer Dieu ? Par la charité. Et ensuite, comment tendre vers Dieu ? Par l'espérance. Donc vous êtes ici essentiellement pour développer en vous ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Dans la vie de tous les jours, vous le faites déjà, mais seulement vous êtes prise par mille et une choses, vous êtes un peu dispersé. Donc ici, vous êtes dans cette retraite pour essayer de porter votre attention sur l'essentiel, en oubliant tous les petits soucis, ou les gros soucis d'ailleurs aussi, que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours. Notre Seigneur disait à la Samaritaine, « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. » Donc aimer Dieu en esprit, c'est l'aimer avec notre intelligence qui est éclairée par la foi, et en vérité, donc c'est la vérité révélée. Donc il s'agit d'adorer Dieu en esprit, et non pas avec notre sensibilité, en vérité, en s'appuyant sur la vérité révélée par Dieu. Alors l'obstacle au repos au cours de cette retraite, je dis que vous êtes ici pour vous reposer en Dieu, mais vous verrez, c'est normal, c'est la vie tout court de tout chrétien, et c'est aussi la vie d'une retraite, il y a des obstacles au repos. Et le premier obstacle au repos, c'est le combat spirituel. Donc si vous le savez, parmi les règles, il y en a un qui n'aime pas les retraites, c'est le démon. Et donc, au cours même d'une retraite, il n'est pas rare que l'on soit tenté à un moment ou à un autre. Et donc, ici, il y a un minimum de règles que l'on doit savoir. Si Dieu, par nature, apaise, le démon agite. Le démon n'aime pas voir les âmes se rapprocher de Dieu. Et donc, c'est ce qui explique les tentations qu'on éprouve souvent au cours, bon, dans la vie de tous les jours, mais spécialement au cours d'une retraite. Donc, toutes les phrases qui commencent par « qui sait si, peut-être que, si jamais », il faut toujours se dire « c'est pas du bon Dieu, ça ». Quand le bon ange vous éclaire, il éclaire, justement. Donc, c'est clair, c'est sans mystère, c'est « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire cela », c'est clair. Si c'est flou, si c'est vague, si plus vous approfondissez, moins vous voyez clair, c'est que c'est pas du bon Dieu. Donc, en ce moment-là, on arrête, on change de chaîne. On ne discute pas avec le diable. Donc, cause de difficulté donc, au cours d'une retraite, le démon, le vieil homme aussi qui est en nous, comme je le dis, le bon Dieu veut que l'on se donne totalement à lui, on a été créé pour lui, donc on est fait pour lui, c'est là notre bonheur, mais seulement il y a en nous deux parties, il y a le vieil homme et l'homme nouveau. L'homme nouveau qui aime qu'on lui parle du bon Dieu, c'est pour ça que vous êtes là, mais en chacun d'entre nous et en moi aussi, il y a le vieil homme. Et donc face aux exigences justement de l'amour, il y a le vieil homme qui a tendance à freiner des cas de fer. D'où, là encore, les difficultés qu'on peut rencontrer au cours d'une retraite. Et puis, troisième obstacle au repos, le monde. Donc là, c'est les soucis, les préoccupations. Est-ce que j'ai donné toutes les consignes? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils vont se débrouiller sans moi? Toutes les questions que vous pouvez vous poser maintenant, quoi. Donc là, le remède, c'est vivre dans l'instant présent. Dieu est dans le présent, confier au bon Dieu tout le reste. Et puis autre raison aussi des difficultés que l'on peut avoir dans la vie spirituelle, et donc spécialement au cours d'une retraite, c'est la transcendance de Dieu. Dieu est Dieu. Et donc le bon Dieu, il a un côté, bon Dieu s'est fait homme pour être proche de nous, mais il est en même temps Dieu. Donc il y a deux aspects en Dieu. Sous un certain rapport, le bon Dieu est proche de nous. Quand il apparaît proche de nous, on se comprend, on le reconnaît bien, on l'aime comme il est. Mais d'un autre côté, le bon Dieu est au-dessus de nous. Et là, quand il apparaît au-dessus de nous, on se sent tout petit. Et donc, au cours d'une retraite, c'est tout à fait normal que le bon Dieu révèle aussi sa transcendance. Et là, on est un peu perdu. Donc, ne soyons pas surpris des épreuves que vous pouvez avoir à certains moments dans votre vie spirituelle et spécialement au cours de la retraite. Le face-à-face avec Dieu est toujours décapant, ça c'est sûr. Alors les dispositions maintenant pour entendre la voix de Dieu, donc on a vu en quoi consistait cette voix de Dieu, quels étaient les obstacles au repos que vous venez rechercher ici. Maintenant les dispositions pour entendre la voix de Dieu. Eh bien première disposition, c'est le silence. Dieu parle dans le silence. Il faudrait relire l'introït du dimanche dans l'octave de Noël. Cet introït qui dit « Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours, votre parole toute puissante est venue du ciel. » La parole toute puissante, le verbum, le verbe, c'est Dieu, c'est notre Seigneur. Mais on peut très bien appliquer cela aussi à la retraite. Le bon Dieu parle dans le silence. Donc c'est dans la mesure où vous vivrez cette retraite dans le silence, seul avec Dieu, que le bon Dieu pourra agir en vous. Donc silence extérieur tout d'abord, donc de la langue, on en a parlé, des yeux aussi en partie au moins. Il y a un retraitant là qui a fait la retraite des hommes, là. Première retraite, il a 75 ans, donc c'était pas tellement son habitude. Puis il y a une chose qu'il n'a pas compris en retraite, il dit, alors il tire une tête comme ça, enfin j'espère que ce n'est pas le cas pour le conseil de retraite, je ne veux pas que vous tirez des têtes de 6 pieds de long. Mais il ne comprenait pas pourquoi les gens ne disaient pas bonjour, ne saluaient pas, ne faisaient pas des sourires. Il dit, chaque chose en son temps, mais dans une retraite, on est avec le bon Dieu, donc on essaie quand même de penser à son voisin s'il manque de pain ou d'eau, bien sûr. Mais on n'est pas là pour se faire les grands signes. C'est pas le moment, quoi. Alors j'ai essayé de lui expliquer ça, mais il ne comprenait pas tellement. J'espère que vous comprendrez. Donc silence extérieur pour justement se rapprocher du bon Dieu. Et puis silence intérieur, spécialement par rapport à la préoccupation de vous-même. Puis ne pas vous étonner, ne pas arriver tout de suite. Certaines personnes, on voit bien ça chaque année, elles rentrent dans l'atmosphère de la retraite, dès qu'elles sont arrivées, elles sont tout de suite dans l'esprit. Il y en a qui font 24 heures, d'autres font 48 heures, donc c'est comme ça. On n'arrête pas forcément un TGV tout de suite en quelques secondes, donc Si vous rouliez jusque-là 270 à l'heure, il faudra peut-être encore quelques temps pour vous freiner. Donc le silence. Ensuite, l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire, comme disait Sainte Thérèse, l'humilité, c'est la vérité, donc s'accepter tel que vous êtes. Le bon Dieu vous aime tel que vous êtes, bon, vos défauts, bien sûr, que vous chercherez à corriger en partie, mais en tout cas, savoir se reconnaître comme on est. Bon, on a du mal, mais il faut garder confiance. Quoi. On voit que le bon Dieu donne sa grâce aux âmes. C'est une On parlera beaucoup de la charité, puisque c'est le thème de la retraite, mais on parlera aussi de l'humilité, parce que ces deux vertus sont connexes, sont bien liées l'une à l'autre. Notre Seigneur disait « Je vous loue, ô Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents, tandis que vous les avez révélées aux petits. » Donc si on veut que le bon Dieu nous révèle certaines choses, il faut être petit, être humble. Ensuite, avoir de grands désirs. La retraite vous apportera, ça dépendra essentiellement de vos dispositions. Le bon Dieu, lui, il veut se donner totalement à vous. Donc s'il ne se donne pas totalement, ça ne vient pas de lui, ça ne peut venir que de vous, ou de nous. Et donc l'importance ici du désir, ça consiste, le désir ouvre notre âme à la grâce. Si une personne ne désire plus rien, le bon Dieu ne peut plus rien lui apporter. Une personne qui est remplie d'elle-même, le bon Dieu, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Plus au contraire on est vide de nous-mêmes, plus le bon Dieu peut agir dans l'âme. Donc c'est le désir qui ouvre l'âme à la grâce. On voit cela dans l'Ancien Testament déjà, un passage du livre de Daniel, où c'est l'archange Gabriel qui dit à Daniel, « Je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence, car tu es un homme de désir. » Donc le bon Dieu aime les hommes de désir. Et on voit cela spécialement à l'occasion des conversions. Il y a un homme à la retraite donc la semaine dernière, 38 ans, il ne s'était jamais mis à genoux de sa vie. Première messe à laquelle il assistait, c'était donc il y a 8 jours, enfin, dimanche dernier. Et on voyait qu'il avait un grand désir d'apprendre. Et c'est toujours ce qu'on constate. Quand une personne se convertit, il y a ce désir qui est important. Et après, à force, bon, on finit par s'habituer. Alors on se dit, oui, bien sûr, oui, Noël, je connais, Pâques, je connais. Donc il n'y a plus cette fraîcheur d'âme. Et on peut dire que le but d'une retraite, c'est justement d'essayer de ranimer en nous cette flamme intérieure pour que le bon Dieu puisse pénétrer plus profondément dans notre âme. Mais quand on dit désir, alors là, il y a aussi certaines âmes qui ne comprennent pas bien. Désir, alors elles pensent qu'il faut se tendre, mais ce n'est pas ça, c'est pas ça le désir. Le désir, ce n'est pas une tension nerveuse, ce n'est pas une crispation. Le désir, ça suppose l'indigence de notre part, donc la reconnaissance de nos limites, et puis en même temps, l'élan de l'âme qui s'élance vers celui qui peut combler nos lacunes. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, il agit dans une âme, on dit, avec douceur et avec force. Il faut les deux. Douceur, ce n'est pas la mollesse, force, ce n'est pas la violence. Et nous, on a tendance aussi, quand on agit dans l'éducation des enfants, par exemple, à être ou mou ou violent. Donc il faut essayer d'imiter ici l'action de Dieu, en essayant d'être avec nous-mêmes, comme le Saint-Esprit l'est, être doux mais fort. Donc l'obstacle au désir, c'est soit l'orgueil, donc se croire parfait, bon, ce qui n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas venu ici, mais ça peut être aussi le découragement. Le découragement est encore aussi un obstacle au désir. Parce que la personne qui se décourage, elle se dit, c'est pas pour moi, c'est trop dur, je ne suis pas fait pour ça, qu'est-ce que je suis venu faire ici, je perds mon temps. Donc le découragement est encore un obstacle au désir. Donc il faut essayer, dans les difficultés, après la pluie vient le beau temps, donc de rester fidèle. Et puis, ensuite, quatrième disposition, après les grands désirs, donc on a vu le silence, l'humilité, les grands désirs, la patience. La patience. On voit que le bon Dieu, il aime se cacher. Et il aime se cacher, en fait, c'est pour toujours dans le même but, dans le but de tester la valeur de notre amour. Et dans le but de creuser, je dirais, de grandir en nous le désir pour qu'il puisse ensuite le combler. On voit cela dans l'attitude de notre Seigneur vis-à-vis de la Cananéenne, où notre Seigneur faisait celui qui n'écoutait pas. Et il a fallu que la Cananéenne le supplie en disant, les chiens, au moins, ils se nourrissent des miettes qui tombent, des miettes de leur maître. Et à ce moment-là, notre Seigneur dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il soit fait selon ta parole. » Donc on voit, on pourra prendre l'exemple de
également de Sainte Marie-Madeleine, après la résurrection, où notre Seigneur s'est caché, il ne s'est pas révélé tout de suite, pour faire grandir encore en elle le désir. Donc ne soyons pas surpris que le bon Dieu ne nous donne pas tout de suite. Le fast-food, ce n'est pas forcément la méthode du bon Dieu, ce n'est pas ça. Donc de notre côté, il faut la patience. Si on abandonne le bon Dieu en ce moment-là, c'est le signe qu'on n'a pas confiance en lui. Et le bon Dieu veut justement la confiance. Donc il faudrait imiter un peu l'attitude du chien qui attend le retour de son maître. Donc le chien n'est pas tendu, il n'est pas crispé, il est aux aguets, il est là. Et dès que le maître arrive, hop, il saute de joie. Enfin, pour ceux qui aiment les chiens. L'année dernière, je donnais comme réflexion, pour reprendre cette année, donc, je vous ai mis un tableau différent de celui de l'an dernier. Donc on a essentiellement deux beaux tableaux au séminaire du 18e. Donc ce tableau, c'est le tableau de la présentation de l'enfant Jésus. Donc l'enfant Jésus qui est tenu par le vieillard Siméon. Et il y a au côté opposé la Sainte Vierge qui met la main sur son cœur, c'est-à-dire un glaive de tout l'heure te transpercera le cœur. La servante qui porte les deux colombes, la servante est sans intérêt par elle-même, donc elle a la tête tournée, mais ce qui est intéressant, c'est les colombes. Et puis après, dans l'ombre derrière, il y a la prophétesse Anne et puis Saint-Joseph. Donc en contemplant, vous voyez, ce tableau, ça nous donne un peu une idée de ce que c'est que la contemplation. Il ne s'agit pas de se tendre, et pour comprendre ce tableau, oui, je vais me tendre, ben non, il n'y a pas besoin de se tendre. Il s'agit de laisser l'image s'imprimer en nous, c'est reposant. Ben, c'est ça la contemplation. Ça consiste à se laisser, on reprend une scène de l'Évangile, on s'y arrête et on essaie de réfléchir à ce qui se passe et pourquoi. Je racontais, oui, l'année dernière, l'histoire du père Bariel qui avait reçu un séminariste qui était parti le voir en disant « Ah là, mon père, ça va pas du tout, là, l'oraison, j'arrive pas à me concentrer. » Et en ce moment-là, le père Bariel a eu cette réponse au séminariste en disant « Imbécile, quand tu vas voir ta mère, est-ce que tu cherches à te concentrer ?» Bon, très bien. Merci, mon père. Alors, quels sont les effets maintenant que l'on peut attendre de la retraite ? Les fruits d'une bonne retraite ? Eh bien, normalement, plus on vit près du bon Dieu, plus notre âme se retrouve dans la paix, dans la sérénité, dans l'abandon à la providence. Donc, un des fruits de la retraite, c'est cela. C'est le fait de se sentir plus paisible et plus confiant. Et puis en même temps, c'est vrai qu'en se rapprochant de Dieu, ben on s'aperçoit nécessairement du chemin à parcourir. C'est normal. On prend toujours conscience du décalage qu'il y a entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. D'où le regret par rapport à la vie passée, à certaines choses au moins, et d'où les résolutions qui doivent suivre ensuite la retraite. Mais enfin, donc chaque chose en son temps. Et puis dernier conseil que je pourrais vous donner, alors ce serait de faire la retraite avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge étant notre mère, il faut lui faire confiance. Donc, dans les moments plus difficiles, n'hésitez pas à dire le chapelet ou à aller la prier. Voilà. Alors, j'ajouterai ici comme dernière considération un passage de l'Évangile qui pourra vous aider aussi à comprendre ce que vous pouvez attendre de cette retraite. Donc à chaque fois, j'essaierai, dans les instructions, peut-être pas à chaque fois, mais dans plusieurs au moins, j'essayais, pour vous donner des exemples concrets de l'Évangile, pour vous aider à contempler, de prendre un passage d'Évangile et de vous l'exposer en quelques mots, pour essayer d'alimenter ensuite vos réflexions que vous pourrez approfondir toute seule, soit devant le Saint-Sacrement ou soit dans votre chambre. Donc je voudrais commencer dès ce soir, en vous lisant jusqu'à un passage que vous connaissez bien, puisque c'est celui que j'ai choisi dans la pub pour les retraites que je prêche ici. C'est le passage de Marthe et Marie qui reçoivent notre Seigneur chez elles. « Or, il arriva, tandis qu'ils étaient en chemin, qu'il entra dans un bourg, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Et elle avait une sœur nommée Marie qui, assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Mais Marthe s'empressait aux soins multiples du service. Elle s'arrêta et dit, « Seigneur, n'avez-vous aucun souci de ce que ma sœur me laisse servir seule ? Dites-lui donc de m'aider. » Le Seigneur, répondant, lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te troubles pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne la lui sera pas ôtée. » Donc vous trouvez ça dans Saint-Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Donc ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que, donc ce que j'avais mis dans la feuille qui préparatoire à la retraite, après avoir joué le rôle de Marthe pendant 360 jours, est-ce que vous accepteriez de jouer le rôle de Marie pendant 5 jours ? En fait, c'est un peu vrai, mais je pense que c'est un peu le but d'une retraite, c'est que dans la vie de tous les jours, eh bien, peut-être qu'à certains moments, vous imitez l'empressement de Marthe. Marthe ne fait rien de mal. Elle accueille chez elle notre Seigneur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et notre Seigneur ne lui reproche pas de l'accueillir. Elle prépare le repas. Notre Seigneur ne lui reproche pas de préparer le repas. Ce que notre Seigneur lui reproche, c'est la manière dont elle agit. C'est qu'elle lui dit, tu t'inquiètes et tu te troubles pour beaucoup de choses. Donc tu en fais beaucoup trop. Tu es agité. Et en fait, dans la vie, tous les jours, c'est notre problème. C'est que ce que nous faisons est souvent bien. Certes, c'est ce que l'on doit faire. On doit préparer son repas, on doit s'occuper de ses enfants, bon, très bien. Mais peut-être que la manière dont on agit, elle est trop agitée. Donc notre Seigneur reproche à Marthe son inquiétude et son trouble. Et il lui dit en ce moment-là, regarde Marie, elle a choisi la meilleure part, elle ne la lui sera pas enlevée. Notre Seigneur, de 33 ans qu'il a passé sur la terre, il a passé 30 ans de vie cachée pour 3 ans de vie publique. Donc, il a voulu nous montrer par là l'importance de la prière. Et donc, ici, vous êtes ici justement pour vous reposer en Dieu, non pas pour qu'à la maison, vous jouiez ensuite le rôle de Marie, mais pour que vous sachiez jouer le rôle de Marthe, mais avec le cœur de Marie, c'est-à-dire avec une plus grande paix dans l'âme. Marthe, ici, en va jusqu'à dire, eh bien, elle reproche à sa sœur de la laisser toute seule pour s'occuper du repas. Mais si Marie s'était occupée du repas avec Marthe, c'est notre Seigneur qui aurait été tout seul. En général, quand on invite quelqu'un, ben on passe quand même, on fait en sorte qu'il y ait au moins quelqu'un avec lui, je pense. Donc on voit qu'il y a, quand on invite quelqu'un chez soi, il y a deux parties. Il y a tout l'aspect de préparation au repas, qui est important, bien sûr. Mais ensuite, l'aspect le plus important, c'est de passer un bon moment avec cette personne. Et justement, le problème de Marthe, c'est qu'elle a inversé les deux fins. Elle a inversé les deux aspects. Elle met tout l'accent sur la préparation et elle en arrive à négliger l'essentiel qui serait de passer un bon moment avec notre Seigneur. Donc je dirais que le but de cette retraite, c'est d'essayer d'apprendre à continuer à jouer le rôle de Marthe, puisque la plupart d'entre vous êtes dans le monde, mais essayer de le faire peut-être davantage avec le cœur de Marie. Donc on va prier à cette intention. Donc on va se rendre maintenant à la chapelle pour une prière, une courte prière du soir. De façon habituelle, il y aura le chant des complies.